Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, comme promis et toute cette année, je vous proposerai de retrouver la LPO et bien sûr Jean-Joseph Desmottiers en 2019 pour parler de la faune qui est autour de nous sur notre territoire. Ça fait déjà un mois qu'on ne l'a pas entendu sur nos ondes nous parler de ces petites bêtes. Alors Jean-Joseph, comme promis, est avec nous. Il est le vice-président et l'animateur bénévole au sein de la Ligue pour la protection des oiseaux de la Sarthe. Bonjour Jean-Joseph.
Bonjour Marie-Sara.
Alors aujourd'hui, de qui allons-nous parler ?
Alors aujourd'hui, nous allons parler des lépidoptères.
Pardon, des quoi ?
Des hétérocères ou des ropalocères, si vous voulez.
T'as m'en dit pas plus, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu français, s'il vous plaît ?
C'est parfaitement français tout ça. Non, on va parler des papillons.
Ah, je préfère, là au moins je comprends. Alors, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, je dois dire. Racontez-nous tout sur ce petit insecte.
Mais déjà qu'il n'y en a pas beaucoup parce qu'on est en hiver. Donc, où les papillons dorment ou hibernent, mais ça on en parlera tout à l'heure. Mais on va parler des papillons. Donc, les papillons, c'est un insecte. Un insecte, c'est quoi ? C'est un corps en trois parties, la tête, le thorax et l'abdomen, et surtout, ça a six pattes.
Tous les insectes ont six pattes ?
Tous. Si là, il n'y a pas de six pattes, c'est pas un insecte.
D'accord.
Huit pattes, c'est une araignée, voilà, très bien. Deux pattes, c'est un être humain. Quatre pattes, c'est un lapin ou autre chose.
D'accord,
quatre pattes, c'est un ver de terre, voilà.
Ok, très bien. Ils ont aussi des ailes, ça ne fait pas partie de leur corps ?
Si, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, parce que les ailes, c'est quand ils seront à l'âge adulte. Avant l'âge adulte, c'est-à-dire quand ils sont ou chenilles, ou chrysalides, ou œufs, il n'y a pas d'ailes. Alors, ces ailes sont recouvertes de petites écailles, d'où leur nom. Le premier mot que je vous ai prononcé là, l'épidoptère. L'épidoptère, oui. Ça veut dire l'épi, c'est les écailles. Terre, ce sont les ailes. Donc, ce sont des ailes recouvertes d'écailles.
Donc, ce n'est pas des poissons volants pour autant ?
Ben non, j'ai dit les ailes recouvertes d'écailles.
Alors, il faut suivre un peu. Ça se passe comment, la vie d'un papillon ?
Alors là, c'est un insecte holométabole.
Encore un mot compliqué.
Voilà. Donc là, c'est un insecte qui passe par quatre phases. La première phase, c'est l'œuf. Après, nous aurons la larve. Après, nous aurons la lymphe et enfin l'imago. L'imago, c'est le nom riche pour parler de l'insecte adulte. Mais il y a d'autres insectes qui ont un développement plus différent, c'est-à-dire les amétaboles et les hémimétaboles, etc. Mais bon, ça, c'est juste pour se la péter.
D'accord. Alors, un peu plus en détail, ça donne quoi ?
Bon, les hémimétaboles, par exemple, de la moitié. Donc ceux-là, ils n'ont que trois étapes. L'étape de la nymphe n'existe pas. Donc si on prend l'exemple d'une libellule, les libellules, elles commencent sa vie comme un œuf, ouais. Dans une plante aquatique. Mm-hmm. Elles se transforment en larve, qui nage et puis mange à peu près tout ce qui passe. Oui, c'est ça. Si, vous rappelez l'émission sur les libellules, c'est vieux, ça, mais bon, enfin, c'est une vraie goinfre. Et après, elle sort de l'eau et se transforme directement en libellule adulte. Il n'y a D'accord. pas la période nymphale de la nymphe de transformation. On parle
en
détail après.
Oui. Okay.
Donc, les amétaboles aussi. Alors, il y a les colamboles, mais ça ne parle pas beaucoup. Ce sont des petits insectes qui vivent dans la terre. Mais bon, si je prends l'exemple des araignées, qui n'est pas un insecte, attention. Mais l'araignée commence par un œuf et que quand elle va sortir de l'œuf, c'est tout de suite une petite araignée. C'est un adulte, mais en modèle réduit. D'accord ?
D'accord.
Donc là, c'est amétabole, c'est-à-dire que œuf.
Il y a deux phases.
Voilà, œuf. Araignée, et puis après, bon, elle fera des mues, et puis. Mais elle commence déjà avec une tête d'araignée.
D'accord.
Voilà. Et
okay.
pas une tête de larve normale.
Alors, on va y aller dans l'ordre, du coup, puisque notre petit papillon, lui, a quatre phases, l'œuf, la larve, la nymphe et l'imago. On va commencer donc par parler comment ça se passe sa vie dans un œuf.
Alors, la femelle va pondre un tas d'œufs, pas mal déjà, c'est souvent par dizaines, voire centaines. Alors, les œufs sont tout petits. Bah forcément, déjà pour sortir d'un papillon, 100 œufs qui sortent d'un papillon, il ne faut pas qu'ils soient bien gros. Alors, ces œufs sont enduits d'une sorte de glu, de colle, parce que les œufs vont être collés sur des feuilles de plantes. Et la femelle choisit particulièrement les plantes en fonction des desiderata gastronomiques de la future chenille. Si on prend l'exemple d'un papillon qui s'appelle la pierrite du chou, la femelle va toujours pondre ses œufs sur le chou.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près à quoi ça ressemble, ce papillon ? Est-ce qu'il y en a dans le coin ?
Ah oui, ah oui, ça, il y en a plein. Hein. Si vous avez un jardin, oui, oui, ils sont tout blancs, avec des points noirs, un ou deux points noirs sur les ailes.
D'accord.
En fonction de la marque de la pierrite. Voilà. Donc, ils sont facilement reconnaissables. Ceux-là, donc, la femelle va pondre sur les choux.
D'accord.
Au grand désespoir du jardinier local. Oui, voilà, c'est ça, ça c'est sûr. Bon, mais bon, chaque papillon a sa nourriture préférée. Si on prend le ver à soie, qui est connu pour fabriquer de la soie, hein, voilà, lui, ça sera le mûrier. C'est un arbre du midi, voilà. Si on prend qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Mais si, le porc du jour, c'est un papillon rouge avec... quatre yeux peints sur les ailes,
oui.
À chaque coin des ailes. Bon, celle-là, ça sera les orties.
D'accord.
Ce sont des petites chenilles toutes noires qui naîtront et qui mangeront des orties.
Très bien. Donc, le papillon pond les œufs sur la plante de prédilection propre à son espèce, du coup ?
Oui.
Et ensuite, il se passe quoi ? Donc, ça devient une chenille ?
Oui. Alors, il faut attendre un petit peu quand même, ton incubation. Une dizaine de jours, ça dépend des races de papillons, et aussi du temps qu'il fait, parce que plus il fait chaud, plus c'est rapide.
D'accord.
Voilà, donc au bout d'une dizaine de jours, il y a une petite chenille qui est dans l'œuf. Alors on la voit par transparence, parce que c'est un œuf, c'est pas une coquille d'œuf comme un œuf de poule, hein, ou d'oiseau, c'est une petite membrane. Donc là, on voit la petite chenille, on voit surtout les yeux. Ça fait deux gros yeux noirs dedans, puis un petit corps tout blanc, un petit étard dedans, qui gigote là-dedans. Au bout d'une dizaine de jours, la petite chenille en a marre de rester dans l'œuf, donc elle se décide de sortir. Et pour sortir, elle ne va pas casser l'œuf, mais va le manger.
D'accord.
Elle va grignoter son petit œuf, et puis elle ressort. Et comme la maman a eu la bonne idée de pondre au bon endroit, elle va commencer à s'intéresser à la plante qui se trouve juste dessous.
D'accord, donc elle va commencer donc à manger la plante, d'où les jardiniers qui sont en
oui.
désarroi quand le papillon a pondu sur les feuilles de chou.
Oui, manger, c'est gentil comme verbe. Je dirais plutôt bouffer, se goinfrer. C'est une horreur ça, hein, parce que bon, en fait, la chenille va quand même manger et multiplier son poids par 10 000. En gros, un bébé humain, 3 kilos à la naissance, voilà.
Un beau bébé, voilà, 3
voilà,
kilos.
Voilà, quand il arrive à l'âge adulte, ferait 30 tonnes. Un beau sumo quand même, hein, faut pas rigoler quand même. Bon, la chenille, c'est... alors pour résumer, c'est quoi ça ? À l'intérieur, c'est un tube digestif, c'est que ça.
D'accord.
Ça bouffe, et puis bon, elle mange, et elle va manger de la plante. Tout ce qui est limbe, les feuilles, c'est-à-dire le vert des feuilles, mais pas va pas manger ni les brindilles, ni même les nervures. C'est-à-dire qu'elles vont bien découper. Si vous regardez les feuilles de plantes mangées par des chenilles, c'est bien découpé, tout autour des nervures. Donc, mais ça peut vous sécher un arbre. Une dizaine de chenilles vous mangent tout un arbre. Hein.
Mais alors, elle mange que les feuilles ou elle mange autre chose ?
Ah, que les feuilles.
D'accord.
Que ça. Elle mange. C'est tout ce qu'elle fait, jusqu'à multiplier son poids. Bon, 10 000, c'est pas tous, mais bon, 10 000, c'est à peu près ça.
Alors, comment il peut faire notre petit jardinier ? Est-ce qu'elle a un prédateur, cette chenille ?
Oui. Ah, bah, ça, il y en a des prédateurs. Alors, tant qu'on y est, on va parler des prédateurs. Donc, il y a les oiseaux.
Les oiseaux.
Bah, les mésanges. Quand vous les voyez rentrer pour nourrir les petits, c'est toujours des chenilles. Vous avez les araignées. Les araignées, aussi les fourmis qui se chargent des chenilles. Qu'est-ce qu'on a encore comme prédateurs ? Si, on a des guêpes. Alors là, c'est encore c'est un peu plus gore. C'est-à-dire que la femelle guêpe va pondre à l'intérieur de la chenille. Alors, c'est-à-dire, ça ne va pas la tuer, mais la chenille, enfin la chenille de la guêpe. Parce que ça fait un empilement de chenilles. Hein, c'est,
oui.
Donc, elle va prendre dedans. La chenille de la guêpe va sortir et va manger la chenille qui, elle, est en train de manger votre plante. Elle va la manger de l'intérieur. Oui, quand je dis que c'est gore, c'est gore. Hein.
D'accord.
Et voilà.
Alors, du coup, elle a un tas de prédateurs, cette petite chenille.
Bien sûr.
Comment elle peut faire pour se défendre?
Alors, pour se défendre, alors, elle a plusieurs solutions. Alors, il y a les chenilles dites urticantes. Vous avez les processionnaires. Ce qu'on appelle les chenilles processionnaires, c'est-à-dire des chenilles, quand c'est pendu dans l'arbre, vous voyez toutes les chenilles, quand elles sont à l'étage adulte, elles font le petit train. Vous savez, ça fait juste un petit train de chenilles. Elles suivent les unes.
Souvent, elles sont noires et jaunes.
Pas trop, celles-là, elles sont assez sombres.
D'accord.
Assez sombres, mais pleines de poils.
Ok.
Et le problème de ces petits poils, c'est qu'ils sont hyper fins et vous transpercent la peau, sans faire mal. Hein. Mais, enfin, au départ. C'est pas au moment où ça transperce la peau que ça fait mal, c'est après, parce qu'en bout de,
Des poils ?
Des poils, oui, il y a une sorte de venin.
D'accord.
Bon, on peut les respirer aussi, c'est encore plus rigolo. Là, les poils se mettent dans les poumons.
Ah oui ?
Non, il faut pas faire une tête comme ça, c'est... voilà. C'est après, bon, on a les chenilles qui sont, elles, au lieu d'avoir que les poils urticants, sont carrément vénéneuses, elles. Ou bon, empoisonnées, donc... mais en général, celles-là, on les repère assez facilement parce qu'elles ont des couleurs assez flashy. Pour prévenir les autres, attention, moi, je suis plein de poison, donc c'est pas la peine où je sens mauvais ou...
Ouais, venez pas me voir.
Venez pas me voir. On a aussi, dans cet ordre d'idées-là, aussi celles, dès qu'on les touche, elles se recroquevillent et vous projettent une sorte de petit poison.
D'accord.
Voilà, un liquide plus que malodorant, et puis ça coupe l'envie d'aller... Les manger. Voilà, pas possible. Bon, on a fait le tour de ce que.
Oui, elles sont quand même bien équipées.
Voilà.
Est-ce qu'il y en a qui sont gentilles? Est-ce qu'il n'y en a pas une qui préfère se faire un petit peu discrète?
Bien sûr. Si, il y en a quand même qui jouent les. Qui vont essayer de se fondre dans le paysage. Il y en a certaines qui ressemblent à des brindilles.
Ok.
Et qui ne bougent pas. Donc, elles se plantent sur une petite branche. Se redresse comme ça, et puis ne bouge pas. Et vous passez à côté, vous ne la voyez pas, et elle espère aussi que l'oiseau ne la verra pas. Mais bon, l'oiseau, en général, il ne se laisse pas voir, il la becte quand même.
Alors, vous l'avez dit, hein, ça passe, enfin, le poids passe de 1 à 10 000. Alors, oui. Justement, je suppose que la peau, elle doit muer, elle ne doit pas garder la même peau tout au long de sa vie.
Oui, parce que même si la peau est molle, elle ne grandit pas avec la chenille, donc la chenille va faire des mues. C'est-à-dire qu'elle va enlever sa peau comme une chaussette, hein, ou un vieux collant, une chaussette plutôt, c'est plein. Voilà, et alors elle enlève sa peau, puis elle se ratatine vers le... Elle sort de sa peau, en fait. Voilà, et elle va faire ça, suivant les espèces, entre 5 à 7 fois à peu près.
D'accord,
jusqu'à la toute dernière.
Ok, donc la dernière, c'est la dernière mue avant qu'elle soit taille adulte définitive?
Ah non!
Non.
Mais non,
elle
il faut suivre. Il y a quatre périodes. Alors, il y a l'œuf, la chenille.
Oui, mais elle va bien arriver.
Il y a encore un...
La chenille va bien arriver à un moment où elle va arrêter de grossir.
Mais bien sûr,
donc
elle va arrêter.
Donc là, elle ne mûrera plus.
Voilà, c'est
d'accord.
Là où elle va se transformer en œuf.
Ok,
ou
et ben on verra donc cette troisième phase du développement du papillon dans quelques instants. Je vous propose maintenant de faire une courte page musicale.
Je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pu nuire désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. très tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je mâterais tes fesses à ton insu. J'aurais le compliment facile, je serais l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus, mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Quand tu danses, c'est du dripping, t'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian, que je saccage de mille couleurs. Je t'ai sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux et il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
Comment trouver sa place dans ce monde étrange? Peut-être qu'on dérange,
peut-être qu'on dérange pas.
On attend ce jour où notre destin s'élancera. D'un simple geste insoupçonné, on peut tout changer. Déranger l'ordre des choses, en vrai on peut tout ébranler. Chaque mot a ses répercussions,
personne n'a la même perception
de la grandeur de nos champs d'action et des graines qu'on y a plantées. Partageons nos dons car sans les autres ils ne valent rien.
Créons des liens,
sachant qu'un simple sourire est un pont.
Voyons
en notre vision du monde, essayons de faire le bien. Nos cœurs ont le même battement que les ailes du papillon. Alors
papillon vole,
devant l'un de l'autre côté du miroir. À gérer tout simple mais ces histoires, y'a pas de surprise, c'est ce qu'on appelle l'effet.
C'est la vie, déjà frôlé la mort, mais la faucheuse n'est pas venue au rendez-vous, Dieu merci. Et j'en ai voulu, j'ai été servi. Quand tes choix ne sont pas les bons que tu persistes, c'est toujours après le drame que tu réfléchis. Une fois que les larmes sont perceptibles, le diable te tente, faut que tu résistes. Même si la route me semblait pénible, prends besoin d'une pause, on fait des fautes, on se faute, c'est les mêmes problèmes. Les riches aux pauvres, c'est la même chose, ça n'est gros, chacun suit sa voix, son chemin, son modèle. Et puis toi, ne les fais pas, pas papillon. Je me demande pourquoi mes sénégros baptiseront. Sur ceux qui sont prêts à faire s'ils n'ont pas de filon, des directions pas prudentes.
J'ai fait mes choix, mais j'ai fait mes erreurs, pour le moment, je suis toujours debout. Même si je travaille pour devenir un homme meilleur, trop souvent je n'en vois pas le bout. Je crois bien qu'aujourd'hui c'est l'heure de retrouver la raison d'effacer les doutes. Frangin, méfie-toi, l'effet papillon.
Te voir l'un de l'autre côté du miroir. À gérer tout simple mais ces histoires, y'a pas de surprise, c'est ce qu'on appelle l'effet
papillon. Vole,
la brise peut devenir ouragan. On vole sans savoir où va le vent.
Papillon, vole,
te voir l'un de l'autre côté du miroir. À gérer tout simple mais ces histoires, y'a pas de surprise, c'est ce qu'on appelle l'effet.
Sans vraiment savoir où va le monde, placer peu de paroles et beaucoup d'actions. C'est le but avant que tout ça tombe, avant que la force ne manque pour tout affronter.
Le papillon bat d'aile avec un coup d'avance, prend de l'air frais pour s'allancer. L'avenir sur le bout de la langue et la foudre attendra, je veux avancer.
L'évolution ne se fait pas toute seule,
on n'a pas le choix dans la destination.
La direction n'est pas sur une boussole,
donc méfie-toi des actes, méfie-toi.
toi t'es fait papillon.
Page musicale, je vous propose donc de retrouver comme promis Jean-Joseph Desmottiers, vice-président et animateur bénévole au sein de la Ligue pour la protection des oiseaux. Nous sommes cette semaine en train de parler des papillons. Vous nous informiez avant la pause, Jean-Joseph, qu'un papillon lors de sa vie accomplira quatre phases de changement significatif dans son existence. Il passe de l'œuf à la larve, à la nymphe et à l'imago. Alors nous avons découvert la période de l'œuf, puis la larve. On va parler maintenant de la nymphe, qui s'appelle plus particulièrement chez le papillon la chrysalide. Alors à quoi ressemble cette période pour le papillon ?
Alors quand la chenille est bien baffrée, bien est énorme là tout ça, elle se dit, tiens, il serait peut-être temps que je me change en papillon. Donc, en fonction des espèces, elle va faire une chrysalide. C'est sûr. Mais la chrysalide va être plus ou moins cachée par quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple du ver à soie, la chenille va choisir une petite brindille, va commencer à filer de la soie, c'est-à-dire un petit fil qui lui sort du corps, et puis elle va commencer à fabriquer le support. Et après, en fait, elle va faire son cocon, mais de l'extérieur vers l'intérieur. Elle commence par l'extérieur du cocon et va vers l'intérieur. Donc, elle commence par accrocher les supports. En tournant sur elle-même, elle va fabriquer l'extérieur du cocon. Et au fur et à mesure, elle va fabriquer le cocon en allant vers l'intérieur.
D'accord.
Et ça, c'est faisable, parce que bon, au fur et à mesure qu'elle fait de la soie, elle maigrit, parce que la soie, ça lui vient du corps. Donc plus le cocon se resserre, plus elle maigrit. Donc voilà.
D'accord.
Une fois que le cocon, elle a trouvé que le cocon était fini, bon, elle en a quand même fait, combien à la louche, 1 km, 1,5 km. Ah oui, de fil quand même, hein. Oui, c'est... Elle ne s'ennuie pas. Donc, elle fait ça. Et là seulement, elle va se transformer en chrysalide.
D'accord.
Bon, il y a d'autres papillons qui vont faire la chrysalide, tout bêtement. Ils font une sorte de petit lasso, une petite corde à la branche. Puis, ils vont s'accrocher là-dessus. Il y en a d'autres qui vont prendre des feuilles et les coudre ensemble ou les coller ensemble avec toujours un peu de... Vous voyez, il y a plusieurs...
Façon de faire.
Oui, voilà. Cette chrysalide va durer plus ou moins longtemps. Parce que, comme on arrive, vous rappelez, les femelles papillons pondent en été et en automne.
D'accord.
Donc on arrive pile au moment de l'hiver. Donc elles se disent, tiens, si on passait l'hiver au stade de chrysalide, ce serait une bonne idée. Comme ça, dès les premiers jours, le papillon pourra partir. Donc c'est très variable. Là, alors comment ça se passe ? C'est bien simple. La chenille, une fois qu'elle a fait ou son entourage ou rien du tout, va faire une toute dernière mue. C'est-à-dire que sa peau va encore se barrer. Et là, elle va se transformer en chrysalide. Alors la chrysalide, c'est un truc. Je ne sais pas d'autres termes. Un truc qui est à mi-chemin entre le papillon et entre la chenille.
D'accord.
Voilà. C'est un truc qui ne bougera pas. Enfin... À vitesse, si on regarde, on ne la voit pas bouger.
Oui.
Par contre, si on la filme et après on repasse le film à toute vitesse, on voit que ça se tortille dans tous les sens. Mais très lentement, c'est-à-dire que c'est pas perceptible comme ça. Donc le et ce qui va se passer à l'intérieur, c'est que de tous les organes internes de la chenille vont se transformer en une sorte de gelée, une sorte de purée de.
D'accord.
Oui, c'est un peu magique quand même.
Ah, c'est un petit peu magique. Ouais. Je voyais pas le papillon. Je verrais le papillon différemment.
Hein. Oui, voilà. Et donc, mais les futurs organes du papillon existent déjà, mais sous forme de micro-bourgeons. C'est des petits débuts de trucs. Alors, il y aura les pattes, parce que la chenille a des sortes de pattes, mais c'est pas des vraies pattes. Voilà, il y aura le début, enfin les bourgeons pour les ailes, les bourgeons pour la trompe, pour les yeux qui les yeux à facettes, etc. Et tous ces organes-là existent déjà, mais à l'état de bourgeons, et ils vont se développer à l'intérieur et se puiser justement dans cette gélatine, dans cette purée de
d'organes, de
voilà,
chenilles,
pour grandir et faire un papillon.
D'accord.
Voilà, mais c'est franchement magique, hein, parce que passer en accéléré, on part d'une chenille, qui fait une mue, on se retrouve avec un truc qui bouge plus et il ressort un papillon. C'est pas, ça saute pas aux yeux au premier abord. Hein.
Alors du coup, dans la chrysalide, vous l'avez dit, hein, donc il va y avoir cette espèce de liquide, donc le papillon va être tout fripé à la sortie,
ah,
tout
non,
humide.
Oui.
Est-ce qu'il va pouvoir voler?
Bah non. Ah bah attends, il faut réfléchir 5 minutes. Non, d'abord, le liquide va ne plus exister, vu qu'il sera absorbé pour fabriquer les futurs organes. Donc, la chrysalide, la peau de la chrysalide va se déchirer, et il va sortir un papillon tout fripé. Mais vraiment fripé, hein, ça ressemble à rien, quoi. Voilà. Donc, la première chose, c'est le petit cœur du papillon va se mettre à battre, et va...
Qu'à ce moment-là ? Qu'au moment où il est sorti de la chrysalide ?
Oui.
D'accord.
Oui, parce qu'avant, ça ne sert à rien qu'il batte.
Voilà. Mais alors, du coup, il c'est un être vivant quand même.
Oui,
quand
oui,
il est
oui
dans
bien
la
sûr, c'est vivant.
Il y a toujours le cœur de la chenille qui est là.
Oui, alors là, oui, c'est. Mais on ne peut pas parler de cœur, parce qu'en fait, c'est un vaisseau sanguin qui est sur toute la longueur de la corde de chemise. Ce n'est pas un cœur comme chez nous,
oui,
où on a un petit machin qui.
Qui impulse le sang.
Voilà. Donc là, c'est un cœur qui bat, mais juste pour transporter la nourriture. Oui. Voilà. Donc, le cœur se met à battre.
Oui.
Il va envoyer l'hémolymphe dans les ailes. Alors, pourquoi l'hémolymphe ? Me direz-vous. Parce que, bon, en fait, le sang du papillon, il est transparent.
D'accord.
Voilà. Et comme il n'y a pas besoin de transporter de l'oxygène et d'avoir des globules rouges... Donc le sang est transparent, voilà.
D'accord.
Non, il ne ressemble à rien. Mais il ne sert juste qu'à transporter la nourriture aux différents organes. Ce sang qui est injecté, il est injecté dans les ailes.
D'accord.
Parce que les nervures des ailes, en fait, c'est tout mou. Hein. Donc là, les nervures vont se gonfler justement de ce sang. Le papillon, lui, il va chercher un endroit... le plus proche pour se laisser pendre. Il va s'accrocher par les pattes qui auront un petit peu durci et se laisse pendre, comme ça.
D'accord.
Là, c'est la période la plus risquée de sa vie, parce que là, il ne peut rien faire. Il ne peut pas voler, il ne peut rien faire, il est obligé de subir. Et là, il est obligé d'attendre que ses ailes sèchent. Parce que bon, elles sont toutes molles, hein. Donc, une fois qu'elles sont sèches, là, il n'y a plus de problème, il s'envole.
D'accord. Alors, du coup, ça veut dire que si les papillons n'avaient pas un sang transparent non pourvu de globules rouges, mais s'ils en avaient pour transporter de l'oxygène,
oui,
les ailes des papillons seraient rouges.
Non, parce qu'en fait, c'est juste dans les nervures.
D'accord.
La couleur des ailes de papillons, c'est dû aux petites écailles qu'il y a dessus.
Ok.
Voilà, mais c'est pas dû à l'intérieur des ailes. Les ailes, c'est hyper fin.
D'accord.
Voilà.
Ok, alors justement, il va pouvoir voler après, les ailes sont sèches. Qu'est-ce qu'il va manger, ce petit papillon ?
Alors, je vous ai dit, il est équipé d'une trompe.
Oui.
Alors, pour certains. Alors là, le papillon, il va pouvoir aller se butiner les fleurs. Mais les fleurs qui lui sont, enfin, je dis pas réservées, mais presque. Des fleurs avec des fleurs très profondes. Tout en...
jonquille, par exemple ? Non ?
Jonquille... Non, c'est pas tout à fait... Non, pas trop. Non, disons où les pétales se rejoignent, mais qui est, enfin, disons qu'ils sont inaccessibles pour les autres insectes, pour les, par les abeilles, etc.
Okay.
Donc là, il va pouvoir dérouler sa trompe, qui est quasiment aussi longue que son corps, et aller chercher du nectar au fond, parce que le papillon ne peut ingérer que des nourritures liquides. Il n'est pas équipé pour manger, il a pas d'organes masticateurs ou broyeurs. Donc il ne peut avaler que du liquide. Pour certains, il y en a certains papillons qui n'ont même pas de tube digestif, pas de trompe, rien du tout. Vu que la finalité de l'état adulte, c'est la reproduction. Point barre. Donc c'est un peu comme les éphémères. Elles naissent et ne servent qu'à se reproduire.
D'accord.
Il y a des papillons qui vivent que sur leur réserve, qu'à fabriquer la chenille pendant son état d'engraissement. Donc le papillon vit sur les réserves. Et puis une fois qu'il se reproduit et est pondu, il meurt.
D'accord. Alors, vous l'avez dit, hein, plusieurs régimes alimentaires selon les espèces. Justement, il va y en avoir combien d'espèces de papillons dans le monde ?
Ah non, on n'en sait pas trop.
D'accord.
Oui. Non, il y a beaucoup de papillons qui sont qui vivent dans les pays tropicaux et tous n'ont pas été comptés. Bon, pour l'instant, on en est à peu près à 170 000.
Espèces
recensées. Mais on n'est même pas sûr qu'on en ait à la moitié. Parce que, bon, vous prenez la forêt vierge, la forêt amazonienne, toute la canopée, tout ça, le haut des arbres, tout ça, l'inventaire n'a pas été fait complètement.
D'accord.
Voilà.
Alors, chose étrange que vous m'avez apprise, dans ces 170 000 espèces, 9 sur 10 sont des papillons de nuit.
Oui.
Fait étonnant, parce qu'on n'en voit pas tant que ça par chez nous.
Ben oui, mais parce qu'on les voit pas, parce que nous, on se balade le jour.
Oui, oui, voilà. C'est vrai aussi. Voilà.
Donc, les papillons de nuit, eux, on ne les voit que la nuit, quand on peut les voir. Si la seule façon de les voir, c'est quand ils tournent en rond autour des lampadaires. Mais bon, sinon, le papillon de nuit, si vous pouvez... Alors, il y a certains scientifiques qui tendent un drap tout blanc avec une lumière un peu spéciale, assez brillante derrière, et les papillons vont se précipiter justement sur ce drap, ce qui va permettre de compter les papillons, sans les attraper, juste en les compter. Mais c'est tout, hein, Mais 9 papillons sur 10 sont des nocturnes. Alors, à cet effet-là, le papillon nocturne est repérable. Alors, déjà pour deux raisons.
Mm-hmm. Enfin,
il y a les ailes. Si les ailes sont repliées les unes sur les autres, verticalement au-dessus, c'est un papillon diurne. Si les ailes sont à plat, voilà, comme un avion,
ouais,
c'est un papillon nocturne.
D'accord.
Et l'autre façon... C'est... Alors, si vous êtes très, très, très copain avec un papillon, et vous pouvez le regarder dans le blanc des yeux... Non, je rigole un peu, il n'y a pas de blanc. Mais le regarder dans les yeux, vous regardez, sur la tête, il y a deux antennes.
Oui.
Alors, si les antennes sont des petits... Ça ressemble à des petites plumes.
Oui.
Ça sera un papillon nocturne.
OK.
Et si les antennes ressemblent à des petites tiges avec une petite boule au bout, ça fait un petit peu une petite massette, une petite massue. Mmh. Ça sont des papillons diurnes.
D'accord.
Voilà. Pourquoi ça ? Parce que les nocturnes, ils ne voient que les lumières, mais bon, ils ne voient pas les femelles. Et donc, pour repérer les femelles, ça sera à l'odeur.
D'accord. Mmh. Ok, alors justement, on va parler de ses partenaires, de ses couples. Comment le papillon, il fait pour trouver sa femelle ?
Mais la femelle, elle met du parfum, du Dior, du Chanel et tout ça. Et puis, pourquoi je raconte des bêtises ? Non, en fait, la femelle va émettre des odeurs. Si, elle va toujours émettre des odeurs qu'on appelle des phéromones.
Oui.
Alors, c'est des odeurs particulières qu'elle diffuse comme ça dans le vent. Et les odeurs sont portées par le vent et sont détectées par les plumes, ces plumes qui servent à sentir, en fait, hein, du mâle. C'est tellement sensible que ça réagit à quelques molécules de ce parfum. Ah oui, il peut sortir une femelle à des kilomètres.
D'accord.
Voilà. Donc, il sent ça, il se dit « Oh, il y a une femelle qui est d'accord pour faire des galipettes. » Donc, il va remonter le vent et remonter jusqu'à la source de ces odeurs-là et trouver la femelle. Mais bon... Là, ça va être un peu la foire d'empoigne, parce que comme il n'est pas tout seul à avoir senti, ils sont plusieurs mâles à se jeter dessus, puis... Enfin bon, c'est...
D'accord.
C'est une horreur.
Bon. Alors, petite particularité également, du coup, quand elle a trouvé son conjoint, quand elle fait des œufs, elle met aussi une odeur sur la plante pour dire « celle-ci est prise ».
Voilà. Non, parce que bon, sinon tout le monde se... Vu que les chenilles sont goinfres, il faut, si on met tout le monde sur la même gamelle, personne n'aura suffisamment à manger. Donc la femelle pond et puis met un peu de parfum de sa phéromone sur la plante pour dire aux autres femelles, bon, celle-là c'est pas la peine, j'ai déjà pondu, allez voir ailleurs s'il y a encore de la place de libre.
Alors, ces derniers temps, je vois moins de papillons, c'est aussi dû au fait qu'on soit à l'hiver, mais même au printemps. Comment vous expliquez le fait que ces papillons disparaissent ?
Ah ben, alors ça dépend principalement de l'homme. Alors, oui, bon, alors il y a toutes les couches. J'ai l'impression de radoter, mais bon. Il y a toutes les cochonneries d'insecticides, de pesticides et tout ça qui vous massacrent la nature. Mais le papillon a aussi d'autres problèmes, c'est-à-dire la pollution lumineuse.
Alors, en quoi ça va gêner la pollution lumineuse, notre petit papillon ?
Parce que le papillon, il est attiré par la lumière.
Oui.
Donc, c'est un lampadaire allumé et qui éclaire, au lieu d'éclairer le sol, il éclaire un peu partout dans
autour de lui, oui.
Il éclaire les étoiles. Là, le papillon, il va passer au-dessus, il se dit, oh, de la lumière, et il se met à tourner autour.
Ouais.
Voilà. Et il va tourner autour jusqu'à mourir d'épuisement, ou une mort un peu plus rapide, une chauve-souris va se charger d'abréger ses souffrances. C'est très gentil, une chauve-souris, ça ne s'aime pas, la souffrance animale. Voilà. Et puis, et il y a aussi la dernière cause de disparition. Vous vous rappelez qu'un papillon est complètement dépendant d'une plante.
Oui.
C'est-à-dire la pyrite du chou ne pondra que sur les choux.
Oui.
Vous n'avez plus de choux dans le coin. Il n'y aura plus de pyride.
Oui,
voilà.
D'accord.
Bon, mais c'est valable pour toutes les espèces. La disparition de certains milieux naturels, du bocage, etc., la disparition de la diversité des plantes fait que la diversité des papillons va diminuer aussi de fait. Et il n'y aura plus... Par exemple, vous allez arroser de Roundup, enfin de glyphosate un champ, il n'y a plus d'orties, plus de pain du jour, hein. Ah, ça c'est sûr. Voilà, et donc plus de papillons. Donc, et il ne faut pas oublier que le papillon est un pollinisateur. Donc,
déjà
aussi,
qu'on a moins d'abeilles.
On a moins de petites guêpes sauvages. Si on n'a plus de papillons pour polliniser, c'est les rendements des vergers ou de tout ce qui est plante. Elles ne font pas que manger les plantes, mais voilà, elles servent aussi à polliniser et à avoir des fruits ou des légumes ou des fruits.
Eh bien voilà, chères auditrices et chers auditeurs, ce nouveau reportage avec Jean-Joseph Desmottiers de la LPO est désormais terminé. Nous étions pour cette nouvelle chronique sur les papillons. J'espère que vous avez appris à plein de choses comme moi. Et on retrouve Jean-Joseph Desmottiers dans très peu de temps, le mois prochain. Si vous voulez nous faire part de nouvelles thématiques, vous pouvez nous contacter au 02 43 46 36 80 ou par mail redaction@radioprévert.fr ou via notre page Facebook. Merci Jean-Joseph et à bientôt.
Ah oui, dans un mois alors. Avec
une
nouvelle bestiole.
Bah oui, bien sûr.